Nous allons passer à la troisième et avant-dernière intervention de notre journée d'études et nous allons entendre Peter Dubé. Peter Dubé, dont le titre de la communication est « Un trop merveilleux, réflexion sur deux cultures du désir ». Alors, Peter Dubé vit à Montréal, il est l'auteur du pamphlet « Vortex Faction Manifesto ». Du roman « Overing World » et de « At the Bottom of the Sky », un recueil de nouvelles. Récemment, il a dirigé l'anthologie « Mother Love, Queer Men and the Precincts of Surrealism » et paru en 2008. En plus de ses écrits de fiction, Peter Dubé publie régulièrement des critiques de livres et d'art visuel dans de nombreuses revues, telles Espace, Sculpture, Essai, Journal, et Spirale. D'autre part, il écrit des essais pour plusieurs galeries, dont Skoll, Mercer Union, la galerie Léonard et Bina Ellen de l'Université Concordia. Alors, nous allons maintenant écouter la communication de Peter Dubé.
Merci, Claude. Je remercie aussi, évidemment, la Maison de la Poésie pour m'avoir invité et vous tous pour être ici avec nous. En fait, j'aimerais commencer mes observations en empruntant une image à M. André Breton, dont le nom on a si souvent invoqué aujourd'hui. En fait, je veux m'approprier une de ses images les plus célèbres, celle des vases communicants. J'ai choisi cette image parce que mes réflexions concernent deux traditions intellectuelles qui, selon moi, se déversent l'une dans l'autre. Non seulement ces traditions sont-elles des pôles jumeaux de mon développement en tant qu'homme et en tant qu'écrivain, mais elles se conjuguent pour former une problématique littéraire et culturelle plus vaste, à mon avis. Ce début quelque peu personnel me semble approprié puisque le thème d'aujourd'hui est l'héritage de ce réalisme et que, de toutes les façons importantes qu'il soit, nous sommes les héritiers du surréalisme, nous, les personnes ici dans la salle, écrivains, lecteurs, critiques, qui tenons ces textes et ces théories, ces visions dans nos mains, pour ne pas dire nos têtes et nos cœurs. Je vais donc commencer avec le premier de mes deux vases communicants, le surréalisme même et le parcours que j'ai suivi pour y arriver. J'ai découvert ce mouvement à l'adolescence par un chemin sinueux qui serpentait et qui serpente en fait toujours à travers quelques-uns des quartiers les plus louches de la culture populaire. Ce n'était pas, je l'avoue, une trajectoire anormale pour un garçon faisant face à la fois au torrent de sa jeune maturité, à l'émergence de son intérêt pour les arts. Comme bien d'autres personnes, j'ai donc découvert le surréalisme, ses idées, sa vision du monde, ses pratiques et créations, en découvrant ses peintres. J'ai vu ces paysages avec un regard tout à fait ébloui. Les horizons sans fin de Tanguay, les mondes fourmillants de Max Ernst. C'était là mon introduction, l'aperçu d'autres mondes volatiles et superbes, des mondes que je voulais posséder à tout prix, mais que je ne pouvais jamais atteindre. Des mondes, en fait, que je croyais devoir créer moi-même afin de pouvoir y parvenir. À partir de ces articles, j'ai avancé plus profondément dans le labyrinthe de surréalisme où j'ai découvert les écrivains, le torrent étincelant et enivrant des mots, les poèmes, l'écriture automatique et les grands grimoires du mouvement Nadja, la paysanne de Paris, traité du style, capitale de la douleur, l'amour fou. Rien n'aurait pu être plus enchanteur pour moi. Ces textes me montraient que le langage pouvait tout changer. Leurs pages m'ont appris que les mondes étourdissants que j'avais aperçus dans les tableaux existaient déjà dans ce monde-ci, attendant d'être découverts. Chaque page était une révélation, un poteau indicateur qui me guidant de plus en plus profondément dans ce labyrinthe palpitant. Plus j'avançais, plus je m'approchais du Minotaure qui était au cœur de tous ces merveilles. L'homme de qui j'ai volé mon trope il y a un moment seulement, André Breton. à figure qui m'a fasciné et m'a répugné à la fois. Puis, je n'exagère pas, il m'a fasciné et il m'a répugné à la fois. Il a présidé à la naissance du mouvement et a gardé sa flamme allumée avec tendresse, passion et violence tout au long de sa vie. Il était un homme de grand talent et de grande intelligence, un homme d'énorme charisme, au dire de tous, des convictions profondes, de grand rigueur morale, d'engagement radical intense, d'entêtement terrible, un homme faisant preuve d'une tendance réactionnaire énigmatique et d'un antiféminisme troublant. Par contre, l'aspect le plus problématique pour moi au moment de ma découverte était que Breton, pour ne pas mâcher mes mots, était un salaud d'homophobe, tandis que moi, j'ai découvert la complexité intéressante de mon deuxième vase communicant, mon homosexualité. Par une étrange coïncidence, ou pour continuer sur le même thème, par un hasard objectif, j'ai commencé à déclarer mon homosexualité à peu près au même moment où j'ai découvert le surréalisme. Ce qui veut dire que j'étais assez jeune et à l'école. Heureusement, j'étais à Montréal, une grande ville, avec plusieurs universités, des langues variées, une scène culturelle animée et une forte tradition de politique de gauche. Ce confluent de circonstances favorables a fait en sorte que j'ai pu me joindre à un groupe pour la jeunesse homosexuelle, un groupe dirigé par des hommes déjà actifs dans le mouvement de libération gay radicale de l'époque. Ces hommes ont été ma porte d'entrée vers un autre point de vue concernant la passion pour le changement radical. À mes yeux, ils ont représenté la culture de désir que les hommes gays commençaient à créer, une culture qui me semblait proche de celles proposées par les surréalistes, mais sans les œillères de préjugés de André Breton. Le mouvement qui m'était présenté, les écrivains qui travaillaient à partir de ce modèle, étaient engagés à libérer le désir et la sexualité. Ils voulaient créer à l'extérieur des normes familiales existantes, des nouveaux types de réseaux sociaux, enracinés dans des idées assez radicales concernant l'affection élective, la communauté et l'amitié. Le mouvement redécouvrait les espaces cachés de la ville et leur redonnait vie de façon libidineuse. Il souhaitait changer les structures générales qui prônaient une notion arbitraire de productivité pour encourager la réalisation personnelle. Il était animé par l'érotisme et ils étaient joyeux. Il va sans dire que je l'adorais. Par contre, bien que j'étais moi au cœur de ma découverte, cette sorte de politique libertaire approchait un détournement terrible. J'ai assisté au dernier moment de son ascension et bien que ce mouvement existe toujours de manière à la fois souterraine et quelque peu visible, tout comme le surréalisme d'ailleurs. Puis je vais prendre cette opportunité-là de souligner en fait une perte terrible dans le surréalisme contemporain, la mort de M. Franklin Rosemont il y a un mois, qui était une figure centrale dans le groupe surréaliste de Chicago, une grande figure dans le surréalisme de langue anglaise en tout cas, mais à la fois sur le terrain et quelque peu visible, etc. Nous savons tous que cette histoire se termine avec un mouvement gay dont les principales préoccupations sont le mariage et le service militaire, ce qui ne correspond pas exactement à l'ardeur visionnaire qui m'avait donné des frissons à l'époque. Malgré des telles déceptions, mon développement en tant qu'homme et en tant qu'écrivain a été profondément marqué par ces deux visions radicales. J'avais l'impression qu'elle partageait quelque part un territoire important et j'étais troublé lorsque je contemplais les contradictions qui semblaient exister entre elles. Plus je lisais, plus mon trouble grandissait. La méchanceté de Breton est bien connue et indéniable. Les preuves de son homophobie se retrouvent dans plusieurs documents historiques. Par exemple, je vous cite les recherches sur la sexualité, janvier 28 au août 32, édité par José Pierre, où on peut lire que il menaça de quitter les discussions surréalistes, maintenant célèbres, concernant la sexualité, si le soutien général de l'homosexualité persistait. Le raccord est clair, il est édité. Hein. Malgré tous les problèmes de son chef, entre guillemets, le mouvement était volatile et diversifié. Il y avait plusieurs points de vue conflictuels, des schismes, des accusations et des gens de toute sexualité, comme par exemple René Crevel, Louis Aragon, qui allait finir ses jours dans des gros Cadillac Rose, dans les défilés de fierté à Paris, Claude Gahan et Pierre Molinier, pour n'en nommer quelques-uns. De plus, d'une certaine manière, les préoccupations du mouvement suriatiste étaient très similaires à celles des gays et lesbiens. Considérons les points suivants. Le corps du mouvement surréaliste et des courants les plus radicaux de libération gay était le désir. Les deux mouvements étaient délibérément intéressés à la subjectivité et à la manière dont l'esprit fonctionne. Il suffit de penser aux narrations psychologiquement méticuleuses de Robert Gluck. Finalement, les deux mouvements partageaient un intérêt dans la façon dont la subjectivité et le désir affectent le monde. Il suffit de comparer la version de Griffin Park de John Ritchie à certains passages de Paysans de Paris pour le constater. Ces similitudes, bien que générales, sont importantes d'un point de vue historique et politique et concernant l'écriture que les deux mouvements ont créée. De plus, elles m'ont poussé a édité une anthologie, Matter Love, qui explore la relation entre l'œuvre des écrivains homosexuels et le surréalisme. Mon introduction à cette anthologie explore ces trois points plus en détail, mais du fait des limites de temps d'une table ronde comme celle-là, je vais aujourd'hui brièvement parler d'un seul de ces points, la manière dont les deux traditions sont des cultures de désir. Je soupçonne que la plupart des gens ici présents savent à quel point des écrivains surréalistes définissaient le désir comme étant primordial et transformationnel. Pour eux, le désir était une force capable d'unir les contraires et de dissoudre les oppositions. Dans leurs œuvres, le désir était une force qui dévoilait le merveilleux et qui alimentait la liberté et la ferveur révolutionnaire qui, à leur tour, nourrissait une capacité à transformer le monde. Peu de mouvements avant-gardistes créeront autant de poèmes d'amour ou autant de pornographie, bien que les premières éditions de cette dernière aient été publiées clandestinement. Parmi ces livres, on retrouve La liberté ou l'amour, Le condirène, Le libertinage, L'amour fou, La rose publique et L'amour, la poésie, qui sont un jaillissement d'incantations érotiques enivrantes et qui repoussent les limites de culte de la passion. L'exemple le plus connu est sans doute Nadja de Breton, dans lequel il exprime en détail son obsession pour une femme et la manière honteuse dont il l'a traitée. Sa narration exprime comment sa passion déterminée a transformé sa vie, tout en provoquant une crise psychique et en déclenchant une série de coïncidences bizarres et bizarrement significatives. D'autres figures en périphérie du mouvement ont aussi écrit des livres explorant des thèmes similaires. Le surréaliste dissident, tel qu'on le qualifie souvent, Georges Bataille, a produit des textes érotiques stupéfiants qui développent un mysticisme particulier dans lequel l'univers entier et imaginé comme vibrant d'énergie poétique et érotique, une tension qui décrit comme maintenant, et je cite, « à l'indistinction, à la confusion des objets distincts, elle nous mène à l'éternité, elle nous mène à la mort, et par la mort, à la continuité. » En un mot, le surréalisme voyait l'amour et l'érotisme comme étant révolutionnaires, et ce concept était suffisamment important pour devenir la base de nouveaux modes de vie qu'ils se créaient. Ce point est souligné dans diverses déclarations de Breton, comme, et je cite M. Breton, « l'amour principe du mal dans la démonologie bourgeoise qui demande qu'on lui sacrifie tout, situation, honneur, mais dont l'échec dans l'organisation sociale introduit le sentiment de révolte. » On pourrait dire que cette croyance en l'importance politique et personnelle du désir est une caractéristique que les surréalistes partagent avec mon deuxième vase communicant, les premiers radicaux gays qui sont, selon moi, des héritiers légitimes du surréalisme. Je ne suis pas le seul écrivain gay contemporain à reconnaître ma dette envers le mouvement surréaliste. Et il y a très peu de doutes concernant les liens historiques. Par exemple, l'écrivain beat Brian Jason a été brièvement actif au sein du groupe de Paris. Et la technique de découpage qu'il a développée avec Burroughs, de même que d'autres concepts, beat de composition spontanée, est très clairement inspirée de l'automatisme surréaliste. De même, si l'on retourne à la question du rôle central de désir, cet héritage est évident dans plusieurs textes gays importants tels que « The Sexual Outlaw » de John Ritchie, qui plaide en faveur de l'importance révolutionnaire de la promiscuité, en opposition à la moralité traditionnelle et aux lois répressives. D'autres auteurs, comme Charles Shively, un Américain, argumentent de façon encore plus véhémente. Et ici, je cite M. Shively. Libérez-vous des armures et des chaînes. Ouvrez tous vos pores et orifices à la communication sexuelle, sans retenue aucune. Des amours multiples, comme les amibes, comme les orgies au bain, l'accouplement simple entre les stations du métro, entre deux cours ou en faisant des courses. Nous devons toujours être ouverts à l'activité sexuelle. N'en faites pas une activité intermédiaire, mais rendez-vous sexuel chacun de vos actions. Sans aucun doute, les images évoquées par un tel passage méritent l'épithète surréaliste. J'argumenterais que les surréalistes et les premiers auteurs du milieu radical gay et lesbienne, bien qu'ils travaillent dans différentes ères et ont eu des opinions bien différentes, semblent être en accord concernant certaines idées de base. La sexualité, le désir et la passion sont des puissances dans le monde et du psychisme humain au même temps et sont des moyens importants et valides que les gens peuvent utiliser pour créer des liens entre eux. Les deux mouvements se rejoignent en ce qui concerne la perception du désir et de l'amour, qui décrivent comme étant capables de perturber et de transformer des relations ordinaires, des organisations sociales et la conscience. La littérature de drague, un genre important en littérature gay, concerne l'expérience du temps et de l'espace autant que le sexe. Edmund White, dans son extraordinaire Nocturne pour le roi de Naples, relate un instant sur les vieux quais à New York. Et ici, je cite M. White. Un vent léger a lancé des incantations et hypnotisé la flamme naissant d'une allumette dans les mains repliées d'un homme. Puis la flamme s'est éteinte et la cigarette a palpité tout seul. Chaque bouffée dessinait un homme doré sur les pommettes de son visage. Il y a des qualités de l'ombre. L'ombre de soie grise qui s'étire dans le ciel mouillé par des lumières de la ville, l'ombre de quartz noir qui se met à bouillir pour créer un fleuve, et puis toutes ces silhouettes crayonnées d'hommes qu'on voit au loin. Des silhouettes minuscules posées sur est-ce le premier étage? Que font-ils donc là-haut? La lumière rouge d'une cigarette semble répondre à la mienne dans cette immensité qui vient de faire voler en éclats sa protection de cristal. Ce passage souligne la perméabilité mutuelle de l'observateur et de l'observé lors d'un acte d'observation. La figure acquiert un ombre doré qui est purement imaginaire. La rivière devient du quartz noir bouillonnante dans un acte qui est à la fois vécu et imaginaire, et l'intensité de langage qui, par coïncidence, reflète les préoccupations d'Aragon concernant la variété des ombres et la façon dont celles-ci communiquent avec la vie intérieure dans les premières pages de Paysans de Paris. Mais elle acquiert plus de pouvoir grâce à l'envie que le langage contient et célèbre, reflétant ainsi l'érotisme d'un endroit et la rencontre infiniment mouvante avec ce dernier. Le langage révèle comment l'observateur fait partie de l'endroit, même de manière extrêmement sexualisée, créant ainsi un parallèle avec les méditations d'Aragon et d'autres œuvres surréalistes. On peut citer d'autres exemples. Une des œuvres les plus importantes est sans doute « Les garçons sauvages » de William Burroughs, dont le protagoniste forme une armée de guerriers roses continuellement excités qui luttent contre un système autoritaire strict et dont les pages sont remplies d'images sexuelles gays qui engendrent les imbus, une nouvelle forme de vie qui n'est plus ni moins que le désir incarné. De plus, regardons le début explosif de « Cité de la nuit ». Plus tard, je devais penser à l'Amérique comme une immense cité de la nuit, étalant sa kermesse criarde de Times Square à Hollywood Boulevard, appel de jukebox, gémissement de rock and roll, l'Amérique nocturne dont les villes noires se fondent dans la forme inévitable de la solitude. Souvenir de Pershing Square et de ses palmiers apathiques, Central Park et de ses ombres frénétiques, cinéma aux heures moroses du matin, rue en ventrée de Chicago, film d'épouvant dans les cinémas de plein air du carré français, cliquant des chars de Mardi Gras avec ses clowns jetant des pelles de verroterie, défilant en silence comme la vie elle-même, souvenir des airs érotiques de rock and roll jaillis des jukebox dont les lampes multicolores comme des yeux obscènes clignent le long des rues d'Amérique qui étirent leur collier en toc de la 42e rue à Market Street, San Francisco. Passe de nuit en fumée des cigarettes et des chambres écrasées de solitude. Dans ce passage, l'envie est palpable. Les petits détails sont amplifiés, définissant ainsi des cités, des relations entières. L'intimité est créée par la voix narrative et l'ouverture enthousiaste avec laquelle est décrit ses propres processus. Dès le « je devais penser », le ton est donné et toutes les images généreuses semblent confessionnelles, comme des histoires murmurées à un proche. L'endroit et l'expérience de l'endroit se marie aussi complètement que dans les passages de White cités plus tôt, et ce mariage met de l'emphase à la tension entre la conscience narrative fluide et l'aspect concret de langage. L'énumération que fait Ritchie des endroits et de leur impact émotif et psychique crée une résonance entre le surréalisme et la littérature gay et lesbienne radicale qui va beaucoup plus loin que la question de désir, évidemment, mais j'ai choisi aujourd'hui de me concentrer seulement sur le désir. J'ai fait mon choix à cause des limites de temps, c'est vrai, mais aussi parce que j'argumente que ces deux traditions sont reliées comme les vases communicants de Breton, même si Breton ne serait probablement pas d'accord. En effet, l'énergie dynamique de l'une se déverse dans l'autre et il y a, entre les deux, je dirais, une affinité passionnée et secrète qui conduit les fluides de la conscience d'un endroit à l'autre. Cette force d'attraction, cette passion, à défaut d'un meilleur terme, tire avantage d'une insistance sur l'éros, particulièrement dans le contexte d'un colloque sur la poésie. Après tout, ce que nous cherchons lorsque nous sommes en quête de nos plus profonds désirs est d'avancer au-delà de la limite de notre isolement, de s'approcher d'un autre, quel qu'il soit, et de trouver dans cet autre ou avec cet autre une certaine liberté et un trop-plein de plaisir. N'est-ce pas une des choses que nous recherchons aussi en poésie? J'aimerais conclure en vous citant un dernier passage, extrait d'un article d'Annie Lebrun, un autre nom cité aujourd'hui, un surréaliste contemporaine. Si une révolution surréaliste existe, elle est inséparable de l'affirmation de désir en tant qu'intuition physique de l'infini. Et c'est quelque chose, je crois, qui peut être dit de l'art gay et de la vie gay. Merci.
Alors, merci à Peter Dubé alors pour nous avoir fait partager ce rapport au vase communicant dans lequel la culture gay et les valeurs surréalistes semblent communiquer à travers un désir, à travers une osmose d'énergie dont les extraits qui ont jalonné sa conférence portent à réflexion sur cette question de l'écriture même à travers un débordement d'images. La singularité de son intervention démontre bien que les héritages du surréalisme peuvent avoir encore plusieurs facettes à travers lesquelles nous pouvons pénétrer le sujet, si je peux me permettre, jusqu'à comprendre que, comme il l'a dit au tout début de son intervention, nous sommes tous ici des descendants, des héritiers, quelque part, du surréalisme, puisque chacun pourrait avoir son interprétation selon ses valeurs et son mode de vie. Ce qui n'est pas donné à tous les sujets littéraires à l'intérieur d'un colloque. Donc, merci pour cette singulière intervention, très précieuse.